Il est 9h35 minutes. Le déconfinement des dernières semaines pose des difficultés aux parents qui souhaitent aborder la notion de prudence avec leurs enfants. Et on s'est rendu compte au fil du temps que souvent les jeunes sont peut-être un peu plus rébarbatifs à appliquer certaines notions de distanciation. On l'a vu à Mercier le 28 juin dernier, cette fameuse fête qui a tourné à la maison ouverte, l'Open House, où il y avait une soixantaine de personnes. Alors, comment on fait pour les convaincre, ces jeunes-là, de respecter les mesures? Est-ce qu'il y a une dimension anxiogène, si on veut, à tout ce qui se passe en ce moment pour les jeunes? Christine Groux est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonjour, Mme Groux.
Bonjour, M. Lacroix.
Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une notion quand même anxiogène, n'est-ce pas, dans tout ce qui se passe avec la COVID, la notion de peur, tout ça?
Ah, oh, mais tout à fait. Je pense que chez les jeunes, comme dans le reste de la population, en fait, je pense que les gens oscillent entre les extrêmes, c'est-à-dire le déni, la minimisation des choses versus la dramatisation ou l'extrême peur. Puis la majorité des gens se situent quelque part entre les deux extrêmes. Certaines personnes sont aux extrêmes, mais je vous dirais que, bien sûr, les gens varient beaucoup là dans leur perception de la situation puis dans leur compréhension de la situation.
Oui, effectivement. Mais est-ce que les tu sais, quand on est jeune, on a l'impression qu'on est éternel, là, puis que rien nous arrivera, et puis que les problèmes, la maladie et tout ça, c'est pour les autres. Est-ce que c'est une clientèle qui est plus difficile à convaincre du respect des règles?
Ben, il y a une chose qu'il faut comprendre chez les jeunes. Premièrement, il y a des structures dans le cerveau qui sont responsables des émotions.
Oui.
Puis il y a des structures dans le cerveau qui sont responsables de la régulation, de tempérer, de contrôler ces émotions-là. Chez les adolescents, les émotions sont effervescentes, sont à fleur de peau. Puis les structures qui sont responsables de les calmer, mm-hmm, pour faire un peu l'équilibre, sont pas encore complètement matures. Donc, on part avec ce terrain-là. Et c'est ça qui fait que les adolescents ont parfois, ben même souvent, un sentiment d'invulnérabilité et aussi des difficultés à anticiper les conséquences de leurs actions, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas toujours au plus tard ou à l'après. Cela dit, c'est certain qu'une des choses à regarder pour les convaincre, parce qu'il y a une chose qui fonctionne pas, c'est quand on essaie d'imposer quelque chose,
oui,
puis que l'adolescent est pas convaincu. Et je vous dirais, vaut beaucoup mieux l'amener à réfléchir puis à douter de sa perception qu'essayer de le convaincre que c'est la nôtre qui est la bonne. Ça va être beaucoup plus efficace. Parce que je pense que c'est important de discuter, puis ça dépend beaucoup de l'adolescent qu'on a, puis du lien qu'il y a avec ses parents aussi, puis de la maturité de l'adolescent, parce que tous les adolescents ne maturent pas à la même vitesse.
Mm-hmm.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que de les questionner sur leur compréhension de la situation, sur leur perception de la situation, déjà, ça nous donne des réponses. L'adolescent qui vous dit « moi, je perçois absolument aucun danger, puis tout le monde s'en fait pour rien », ben déjà, on part pas du même lieu que si l'adolescent dit « moi, j'ai une bonne santé, puis je,
ouais,
me sens pas à risque ». Et là, ça permet peut-être de rectifier certaines informations, d'écouter certains bulletins de nouvelles, de lire certains épidémiologistes crédibles, mais juste de lui donner l'information, puis de la discuter avec lui.
En fait, ce que vous dites, c'est de se fier à leur intelligence.
Il faut se fier à leur intelligence, puis il faut surtout se fier à la capacité d'évoluer. Puis là, je comprends qu'il y a une perception de danger imminent, puis que beaucoup de gens sont mal pris parce que l'adolescent va dans un party où il y a beaucoup de personnes, il revient à la maison, on craint. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de sensibiliser l'adolescent aussi au fait que le risque n'est pas que pour lui, il est aussi pour les autres. Mais puis l'autre chose qui est importante, c'est peut-être aussi la discussion. Parce que il faut gérer le compromis. C'est quoi qui est important? C'est quoi qui... Vous savez, on est toujours mieux de s'assurer qu'on sait ce qu'ils font, puis que ça se fasse pas en cachette, que de pas le savoir.
Ouais.
Alors, la discussion, faut comprendre que l'adolescent, c'est pas nous. Puis il faut le sensibiliser au fait que nous, on n'est pas lui.
Mmh.
D'une part, fait que tu sais, d'essayer de regarder aussi avec l'adolescent sur quoi on s'entend. Y a-tu des choses sur lesquelles on est à la même heure? Puis sur quoi on s'entend pas? Parce que ça nous permet d'écarter ce sur quoi on s'entend, puis de se concentrer sur OK, on va essayer de travailler à s'entendre sur ce sur quoi on s'entend pas, puis d'essayer de voir c'est quoi les aménagements qui sont acceptables pour l'un et pour l'autre, pour essayer de trouver un terrain d'entente.
Oui, on dit souvent que l'expérience c'est la somme de ses erreurs, là. Est-ce qu'il faut les laisser faire des erreurs, justement, pour qu'ils finissent par comprendre?
Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est les laisser les laisser apprendre, mais qui se mettent pas en danger ou qui mettent pas les autres
ben
en
oui,
danger.
C'est ça.
Vous savez, c'est la même chose quand on les voit prendre la route pour les premières fois. Je veux dire, tu sais, on veut s'assurer qu'ils font des erreurs, mais on veut s'assurer qu'ils se cassent pas le cou. Alors ici, c'est un petit peu la même chose. Je veux dire, on veut s'assurer d'une compréhension de. Puis je pense qu'il faut avoir une explication aussi de c'est quoi qu'il risque, mais c'est quoi que l'environnement risque, c'est quoi que l'entourage risque.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des membres de la famille qui ont des conditions qui peuvent être plus vulnérables? Est-ce que, tu sais, faire comprendre que son choix implique aussi qu'il choisit pour les autres, parce que c'est ça qui est difficile dans cette situation-là.
Mm-hmm.
Fait que je vous dirais que l'espace de discussion, c'est sûr que si on essaie d'imposer quelque chose, puis qu'on dit ça se fera pas, puis c'est comme ça, il y a des chances que ça génère beaucoup de frustration, puis que ça fonctionne pas aussi bien que si on discute, si on s'explique, puis si on dit, ben regarde, qu'est-ce qui est important? Tu veux voir tes amis? OK.
Ouais.
Peux-tu les voir dans tel contexte? Peux-tu en voir tant en même temps? Y a-tu moyen de les voir, je sais pas moi, en l'absence de consommation d'alcool, par exemple, pour pas se désinhiber? Donc, faut essayer de voir est-ce qu'il y a des terrains d'entente, puis aussi rappeler la perspective temporelle de ça. C'est pas pour toujours qu'on fait ça, là.
Oui.
C'est pas pour toujours. Puis ça, c'est important parce que le temps pour un adolescent puis le temps pour un adulte, c'est pas la même chose. C'est pas la même perspective.
Non, c'est ça. Plus on vieillit, plus on trouve que les années passent vite.
Exactement.
Ouais.
Puis plus on a de recul.
Ouais.
Mais tu sais, pour un adolescent, manquer les parties de l'été avec ses amis quand il a été privé, ça a peut-être une connotation un petit peu différente.
Ouais.
Alors, je pense qu'il faut essayer d'encadrer ça, puis peut-être essayer de proposer des alternatives. Il faut que l'adolescent fasse partie de la discussion puis de la solution.
Bon, je disais tout à l'heure qu'il peut y avoir aussi des notions d'anxiété chez les plus âgés. On l'a vu en tout début de pandémie quand on a demandé aux personnes de 70 ans et plus de rester à la maison. Là, il y a des gens qui ont trouvé ça extrêmement difficile. Là, on impose encore davantage de mesures avec le masque, tout ça. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un effet aussi sur les personnes plus âgées?
Ben, en fait, l'imposition d'une mesure, ça rappelle à la population le sérieux de la situation. Faut se rappeler qu'en début de confinement, tout le monde a été assez docile, puis les gens avaient l'impression de combattre quelque chose collectivement, puis ça a été assez efficace. Ce qui a été plus difficile, c'est qu'après des mois de privation, on a réouvert un peu les valves, je vous dirais, on est devenu un petit peu plus permissif, et là, ça laisse place à l'interprétation des gens. Et chez les gens âgés, comme chez n'importe quel adulte, encore là, il y a un vaste éventail de où est-ce qu'on se situe par rapport à l'anxiété qu'on a,
oui,
ou l'impression de non-danger qu'on a. Puis la réalité se situe quelque part entre ça. Et je dirais que l'information y est pour quelque chose. Mais en même temps, il faut comprendre qu'il y a des gens qui font le choix de prendre le risque aussi. Puis là, la grande question, c'est toujours la même. C'est est-ce qu'on peut accepter que c'est l'autonomie d'un individu qui s'exprime compte tenu qu'il y a des, oui, risques pour la collectivité? Ça, c'est l'enjeu éthique dont on, voilà, discute depuis le début de la pandémie.
Exactement. Faire comprendre que c'est la collectivité qui en bénéficie. Madame Gros, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça a été un plaisir.
Au revoir. Christine,
au revoir.
Christine Gros est présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. On s'arrête un tout petit moment, on revient tout de suite après. Restez là.